Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106.6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos moteurs engagés. Christophe, bonjour.
Bonjour l'ami, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme d'hab, tous les premiers dimanches du mois, tu vas nous donner un aperçu du sommaire du motomagazine du mois de juin, forcément.
Et oui, donc pour nous, c'est la DER de l'année radiophonique.
Oui,
hein.
Voilà.
Voilà, effectivement, et numéro 431. Voilà.
Et alors, je voudrais, avant de développer cet aperçu du sommaire, je voudrais présenter l'autre motard engagé, c'est Philippe Motion. Philippe, bonjour.
Bonjour à tous, à toutes.
Voilà. Là, tu remplaces Jean-Yves.
Oui, je remplace Jean-Yves qui malheureusement est passé sur le billard pour se faire changer une hanche.
Donc, j'ai lui au téléphone, je lui ai dit qu'on allait lui faire un petit message, un petit coucou à la radio. Voilà.
Qui se remet très vite.
Mais ça va très bien, ne vous inquiétez pas, cher auditeur. Auditrice surtout, hein, bah, Jean-Yves va très bien. Voilà. Donc, Philippe, tu es le coordinateur de la Fédération française des motards en colère du Nord.
Tout
voilà,
à fait. Hein,
et tu vas reprendre le rôle aujourd'hui pour cette émission de Jean-Yves.
Parfait.
Voilà. Christophe, on commence ce sommaire.
Alors oui, la page de couverture de Moto Magazine, 5 roadsters de feu. Alors je vous en parlerai pas, c'est un long comparatif que vous retrouverez dans les pages centrales de Moto Magazine. La particularité, c'est qu'il a été tourné pas très loin d'ici, du côté du lac de l'Oder. Donc c'est à la frontière belge.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin, voilà. Donc, autres motos qui sont présentées, une chinoiserie, la Cove 800XGT. Je vous la présenterai pas, vous la découvrirez. Effectivement, un trail routier à prix tiré qui a beaucoup d'attributs. Il faut vraiment aller l'essayer. Ça fait débat hein, quand on discute, mais il faut reconnaître qu'ils sont de plus en plus présents. Et puis Triumph qui transforme sa 400. Ils avaient déjà fait un bon coup avec leur moyenne cylindrée et donc qui sortent un modèle Tracker 400. Donc ça, c'est la page de couverture. Alors, de quoi allons-nous parler ? Pierre Orluc, donc directeur de la rédaction, revient sur l'acceptation et l'homologation donc de l'E85 pour nos machines. Alors quand on lit ce qu'il écrit, après peut-être que Philippe fera un complément, on a l'impression que c'est presque gagné. Bon, il y a encore un combat à mener, mais il a l'air vraiment très optimiste sur l'extension donc des adaptateurs pour rouler à l'éthanol avec donc au super éthanol E85 avec nos machines. Alors dans les séquences que je vais vous présenter, la première séquence va être consacrée à des portraits de marques et de modèles, puisqu'on revient sur la marque, enfin le modèle pardon, RS de BMW, donc je vous ferai un petit topo là-dessus. La présentation également d'un motard engagé, un politique qui s'est beaucoup impliqué au moment des combats avec la FFMC, Sacha Houillet, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, j'ai découvert également dans les pages de Moto Magazine un rapport qui a été fait par des sénateurs concernant les moyens de lutter contre les rodéos sauvages et les raves illégales. Et donc, je vous en donnerai quelques éléments. Dans la deuxième séquence, on fera un long retour en arrière, plus de 100 ans, sur un circuit qu'on peut qualifier du TT ou TT italien. Alors évidemment, le TT Tourist Trophy qu'on connaît bien sur l'île de Man, toujours actuel. Je crois qu'ils en sont à leur 107e édition cette année. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 100 ans, il y avait un circuit en Italie qui s'appelait le Circuito del Lario. Et donc, je vous en ferai quelques présentations tout à l'heure à partir de l'article de Moto Magazine. Troisième séquence, une séquence consacrée au handicap et à l'adaptation en fait, des machines pour justement surmonter le handicap. C'est un article qui est publié donc, concernant une pilote qui a eu un accident mais qui a repris tout de suite la course. Et je vous laisse la surprise, j'aurai l'occasion d'avoir un témoignage et de partager avec quelqu'un qui est actuellement en voyage. Et pour terminer, une rubrique consommotard. Hein, c'est le moment où on va partir en voyage. Et vous, comment roulez-vous la nuit ? Hein, parce que ça pose quelquefois des situations particulières. Donc c'est un courrier d'ailleurs d'une journaliste de Motomag qui m'a inspiré. Et enfin, avec quel matériel vous voyagez pour transporter votre équipement ? Donc c'est aussi un consommotard consacré à la bagagerie.
Très bien.
Voilà la miche.
Merci Christophe pour cet aperçu du sommaire du mag de juin. Voilà. Philippe, tu vas nous parler un petit compte rendu des assises nationales du week-end de Pentecôte. Où tu étais présent ?
Oui, tout à fait. Oui. Comme chaque année, la FFMC se réunit ses plus de 200 membres dans son assemblée générale, hein, qu'on appelle nous des assises. Voilà. Et ça s'est passé à Ronces-les-Bains sous un beau soleil et c'est de très très belles assises. Très belles assises.
Très bien. Donc ouverture aux autres, hein, tu nous parleras de, alors aux autres instances,
oui,
je voudrais dire.
Tout à fait, en fait, aux autres diversités motards.
Diversité motard, hein, voilà. Ah,
pour travailler ensemble.
Alors tu mets les jeunes et femmes et réflexion aussi sur l'avenir de la FEDE.
Tout à fait, on est en plein travail aujourd'hui de continuer pour que la FFMC a fêté ses 40 ans il y a maintenant pas loin de 7 ans, puisque c'était en 2020. De réfléchir, c'est comme ce que doit être et sera la FFMC dans 40 ans.
Oui, on ne sait pas. Non, on ne saura pas.
On verra pas. On essaie d'y réfléchir parce que si ce n'est pas nous, effectivement, on sera d'autres. On prépare l'avenir.
D'accord, c'est bien, très bien. Et puis, tu vas nous parler aussi du CT, contrôle technique. Hein. Les dernières news.
Tout à fait.
Suite à la sortie des chiffres UTAC et péripéties Parlement européen.
Tout à fait. Bon, aujourd'hui, effectivement, les chiffres sont sortis. Il y a encore un travail à faire auprès du Parlement européen et auprès de l'Europe, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, la porte se ferme, mais
serpent
on
de
essaie
mer,
de...
Plus, alors ça fait au moins 30 ans qu'on en parle. Hein.
2008. Hein.
Ah ouais. Voilà, très bien. Merci Philippe. Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106.6 ou www.campuslille.com et la technique, c'est notre pilote d'émission, Laurent. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite, restez avec nous.
We'll be right back.
magazine de la moto sur Campus à partir de 11h. Christophe, tu nous parles aujourd'hui, et c'est une habitude, hein, tous les débuts de mois, on fait cet aperçu du sommaire du Motomag. L'aperçu du sommaire du Motomag de juin.
Voilà. Alors là, j'ai flashé sur l'arrêt sur image, la griffe RS, symbole de la perte depuis 50 ans. Alors, quand on parle RS, ça parle aux BMWistes, peut-être pas à tout le monde. Donc RS pour Rennsport, hein, donc ça veut dire course en allemand, et ça qualifie donc tous les modèles que BMW a déclinés en version sportive, à commencer donc par celle par qui tout commence, la R100 RS.
La première.
Donc première, effectivement, première moto carénée. Ça date de 50 ans.
Alors j'ai vu, Christophe, que on était capable de faire un Paris-Marseille en moins de 6 heures.
Oui,
et c'est marqué expérience vécue.
C'était hein, c'est notre temps.
C'est la page 6 du Motomag. Hein.
Oui, oui, il était jeune et fou.
Non, mais ça, Axel.
Bon. Il n'y avait pas de péage.
En 6 heures, Paris-Marseille.
Ah oui. Il faut le faire. Ouais. Et alors, bon, vous savez que je roule avec ma vénérable Cassan RT, et je m'étais toujours dit, mais comment on peut voyager derrière sur une Cassan RS? Parce que la Cassan RS, elle a été aussi pionnière en étant le premier 4 temps, donc en 1983, 90 chevaux, avec cette version du 4 cylindres à plat, donc coursifié, si on veut, par rapport à la RT. Et puis ensuite, on est passé au modèle 16 soupapes, la RS1. Alors je me tourne vers Philippe, le BMiste averti.
Convaincu aussi.
As-tu déjà eu dans les mains un modèle RS? Parce qu'elle existe, la 1300.
Non, j'ai toujours été soit sur une R ou une RT.
D'accord, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la R1300 RT, on nous dit donc dans la présentation, c'est 145 chevaux. Donc vous voyez le progrès, 70 chevaux en 76, deux fois plus de puissance en 2026.
Ça fait combien un cheval tous les ans?
Je sais pas. Bon, et alors je vous passe toutes les déclinaisons qu'il y a eu entre les deux avec les montées en cylindre. Voilà, donc vous retrouverez les modèles avec justement des indications sur les cotes. Et on nous dit, à l'heure actuelle, avec des prix particulièrement bas au vu des prestations de ces motos, même aujourd'hui. Autre sujet concernant les rodéos motorisés. Alors vous avez vu, on a tous fêté, je pense, la victoire du Paris Saint-Germain. Et il y a un de ces motards, peut-on parler motard?
Ouais, mais attends, est-ce que c'est vraiment un motard? Est-ce qu'il avait son permis? Oui. C'est facile de le dire toujours. Bon. C'était quelqu'un sur un deux roues motorisé.
Tout à fait.
Pas de casque, pas de permis.
Pas de casque, pas de permis. Je suis désolé.
En motocross. Et effectivement, Christophe, il s'est pris un pavé, pardon, une protection en béton qui permettait de ne pas accéder au périphérique ce jour de la fête, effectivement, du Paris Saint-Germain. Alors, c'est une commission des rapporteurs sénateurs qui ont donc rédigé un rapport, mission d'information, pour proposer des solutions, effectivement, pour limiter et surtout prévenir, détecter et réprimer les rodéos motorisés.
Moi, j'ai une solution. Tout au moins pour notre région lilloise, Philippe. Hein.
Eh oui, il y avait un excellent circuit.
On avait un très beau circuit en périphérie. Oui.
Qui permettait de se défouler.
De la maille ici, qui permettait à tous ces gens-là de venir se défouler. Hein. Alors, et un très bel outil. Hein.
Qu'on a laissé pourrir.
Oui. Lamentablement.
Alors voilà. Peut-être qu'effectivement, c'est une proposition, puisqu'on a les noms des sénateurs.
Au lieu de toujours punir ou faire de la répression, Christophe.
Alors, oui, alors là, les méthodes, et j'en resterai là, je vous donne parmi les 15 propositions qui ont été faites, les 3 qui sont dans l'article et qui ont retenu mon attention. Tout véhicule dont la vitesse peut excéder par construction 25 km/h, saisi pour faire du rodéo motorisé et non déclaré, sera déclaré comme abandonné dès sa mise en fourrière et voué à la destruction. Bon, au moins c'est radical.
Il va y avoir beaucoup de trottinettes alors.
Ensuite, recours aux drones à l'expérimentation et à la vidéosurveillance algorithmique avec l'aide de l'intelligence artificielle pour détecter les manœuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé.
Et qu'est-ce que t'en penses, Philippe?
Comme d'habitude, on se trompe de solution par rapport à un problème.
T'es d'accord avec moi?
La répression n'a jamais marché. Ça peut fonctionner à un moment donné.
Il n'y a rien à faire, ces gens-là, ils sont ancrés dans ces formules.
En 80, on a créé Carole.
Oui. Carole, effectivement.
Carole était effectivement pour ça, c'est pour permettre à des motards.
Exactement.
Éviter, par rapport à la prévention.
Moi, j'ai une solution, c'est de rouvrir le circuit de Lezen.
Tout à fait.
Et puis, bien l'utiliser à bon usage.
Bon, on l'inscrit à la mission d'information.
Bien sûr, bien sûr. Mais il faut leur répondre à ces gens-là.
Comme nous, à la FFMC, on fait de l'éducation au collège par rapport aux jeunes pour leur dire voilà, les risques qu'ils encourent et autres.
Mais ça fait plaisir aux gens qui ont peur de vivre. Tu sais, qui sont toujours enfermés dans leur maison et qui ont peur de tout. Alors, forcément, ça plaît, tu vois.
Voilà. Et pour terminer cette séquence, donc un autre portrait. Tu parlais tout à l'heure de motards engagés. Eh bien, voilà un. Non seulement motard, mais aussi engagé en politique. Et c'est Sacha Houillet qui a largement contribué donc aux échanges avec justement le corps politique sur les problématiques de contrôle technique, de ZFE notamment. Alors là, c'est plus son côté plus personnel sur sa pratique de la moto. Depuis quand ? Alors, c'est un jeune, hein, pour nous, ça pourrait être mon fils. donc, il nous explique sa première moto à 16 ans, sa fidélité aussi aux motos. Hein, il en est à sa troisième moto. Aujourd'hui, il roule en MT-09 Yamaha Tracer. Et puis, ses combats, hein, sa façon aussi de pratiquer la moto. Il s'est essayé à la piste. Comment il voit aussi son futur de motard ? Jusqu'à quel âge c'est pas mal quand même, à 35 ans, 40 ans.
Regarde aussi, Philippe, Christophe, regarde. Mon père qui disait qu'il aurait toujours une moto dans le garage, il était membre fondateur de la Mutuelle des Motards.
Ça me rappelle quelques-uns.
Et le fiston, lui, il a suivi, tu vois, comme quoi les jeunes, quand même, certains suivent.
L'éducation.
C'est l'éducation. Ouais,
oui, c'est vrai que dans la famille Houillet, ils vivent moto. Hein,
oui, c'est
on peut dire. Hein, c'est quand même intergénérationnel. Ça, c'est clair. Et donc, effectivement, sa pratique de la moto, il pose la question parce qu'il faut s'arrêter. Jamais. C'est la conclusion de sa présentation. Donc, il parle d'ailleurs du circuit Carole. Au niveau de Philippe, tu l'évoquais. Donc, sa pratique de la moto, justement, sur piste, c'est à Carole qu'il l'a faite. Et puis après, il est en Vendée. Donc, il a pratiqué aussi le motoball. J'avoue que je connaissais deux noms, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir le pratiquer. Et vous trouverez en forme de questions-réponses une présentation donc de Sacha Houillet. Il est député du groupe socialiste et apparenté dans la Vienne.
Ouais, très bien, voilà.
Voilà la miche.
On passe un morceau de musique. Et forcément, on se retrouve après. Parce qu'il y a encore plein de choses à dire.
Oui, si on est encore là.
Allez, à tout de suite. Christophe, on va retrouver Charles qui se trouve en Norvège, je crois.
Oui, alors avant de parler à Charles, je voudrais juste dire pourquoi j'ai invité Charles. En fait, dans le Moto Magazine de ce mois-ci, vous avez une interview de Lisa Camilleri. Lisa Camilleri, c'est une pilote donc de moto qui a eu un très grave accident et qui est paraplégique. Et donc, elle a repris la course à moto en adaptant sa moto. Vous découvrirez donc sa présentation dans le magazine. Et il se trouve que là, en ce moment, j'ai un pote cyclo qui est en train de rouler vers le Cap Nord. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle entre l'article et ce que vit aujourd'hui Charles. Donc, bonjour Charles. Est-ce que tu nous
bonjour
entends?
Oui, très bien, merci.
Voilà, alors attends, on fait quelques réglages parce qu'effectivement, tu es à combien de kilomètres de la métropole lilloise là?
2000.
2000, voilà. Ouais. Alors, tu es en route vers le Cap Nord et c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que ici, tu as quelques personnes qui ont déjà fait la route à moto vers le Cap Nord. D'accord. Mais toi, tu as choisi okay un moyen. C'est pas un deux roues, mais presque. Vas-y, explique-nous ce que tu es en train de réaliser.
Bah, en fait, je suis parti avec un véhicule à trois roues parce que j'ai perdu mon équilibre. Et en fait, c'était vraiment un rêve. Et pareil, j'ai eu un grave accident. Donc, je suis à ma deuxième vie. La première, elle était déjà consommée. Et maintenant, je veux réaliser mes rêves parce que je me suis bien rendu compte que la vie, elle tient à un fil. Tout peut basculer. Alors, du jour au lendemain.
Oui, Charles, il faut rappeler quand même ton profil. Tu as eu un très grave accident de voiture, à l'autre bout du monde, en Australie. Hein, voilà, oui. Il y a un arbre, tu es tombé sur la voiture, tu as fait des tonneaux. Enfin bon, voilà. Tu es revenu en France, tu as eu une longue rééducation. Et aujourd'hui, tu as un handicap donc neurologique qui te fait perdre l'équilibre et qui ne te permet pas de rouler traditionnellement à vélo.
Exactement, j'ai perdu mon équilibre. Ouais.
Voilà. Et donc, ça fait 6 ans qu'on a le plaisir de rouler ensemble et de voyager. Et là, t'es parti, en fait, dans la démarche de résilience du handicap. Ce qui m'intéressait, c'était la démarche personnelle, mais aussi collective. Parce que dis-nous aussi ce que tu fais chaque année avec l'Odyssée de l'Étoile.
En fait, je me suis dit quel véhicule je pourrais trouver. Et en fait, je me suis rapproché d'une association qui lutte contre la sclérose en plaques. Et donc dans l'assaut, on a des vélos un peu particuliers à trois roues. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce qu'il me faut par rapport à ma pathologie. Trois roues, c'est vraiment bien. Et donc j'ai réussi à acheter mon premier vélo. Et puis maintenant, chaque année, je pars avec le DC une semaine. Avec vous, les copains, on fait des petits bouts de chemin ensemble. Mais là, j'ai décidé de faire un gros périple. Donc le gros périple, c'est monter jusqu'au Cap Nord. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, le Cap Nord, c'est pas la destination finale, parce que je fais le retour aussi. Donc c'est un road trip de 8000 km, traversant 11 pays, pendant 5 mois, en totale autonomie. J'ai rien prévu, je vis au jour le jour, j'ai tout ce qu'il faut sur mon vélo. Je suis 100% autonome, il me faut juste de l'eau, de l'électricité et de la nourriture que je trouve au fil des jours. Et c'est super, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, la liberté et la vie.
Charles, il y a une question dans le studio.
Charles, il y a quelqu'un qui te suit en voiture ?
Non, pas du tout.
Ah, tu es seul alors ?
Pas du tout.
Alors, il est pas
vrai. Je suis seul, oui.
Alors, il est. Bon, moi, je suis tous les jours le parcours de Charles. Ce qui est fou, c'est que justement, sur la route, il n'est pas vraiment seul, puisqu'en fait, il a retrouvé des cyclos qu'il ne connaissait pas, avec lesquels. Mais c'est pareil en moto. Hein. Il fait route. Ils étaient 5 il y a quelques jours. Chacun fait à son rythme. Et le soir, il se retrouve au campement. Parce qu'ils sont en cyclo-camping là, hein, ils sont pas chez l'habitant. Donc, je trouve qu'il y a une démarche qui est assez semblable dans le road trip qu'on peut faire à moto. Lamiche, t'es allé au Cap Nord.
Oui.
Je pense que Yanis peut-être.
Non, pas.
Non, il a jamais été au Cap Nord.
Non, jamais. Moi, je vais de l'autre côté de l'Europe.
Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es du sud.
Moi, je vais à l'extrême sud de l'Europe.
Oui, oui. Donc Jean-Michel qui est devant moi là, il a fait la route. Donc, tu peux nous donner la grande ville près de laquelle tu te trouves pour situer.
Je vais arriver à Trondheim.
À Trondheim, oui.
Voilà.
Ouais. C'est presque le cercle polaire là, je crois.
Exactement, ouais. C'est ça. On change de là, on passe de la Norvège du Sud à la Norvège du Nord.
Voilà. Ouais.
Et pour donner aussi les problèmes, parce que depuis un mois que tu es parti, tout s'est pas toujours passé comme tu avais prévu. Tu as dû recourir à des réparateurs. Tu m'as montré la photo de ta pédale, puisque tu as un matériel spécifique adapté pour ton handicap. Et,
Donc le vélo est vendu comme ça, il est d'origine, mais je l'ai amélioré par rapport à ma pathologie. Donc j'ai une pédale droite qui est spécifique à mon handicap, qu'on a réalisé avec mon père. Et là, en fait, je me suis dit, si jamais ça casse, j'ai un deuxième pédale qui est tout en carbone, qui m'a été offert gracieusement par un orthoprothésiste à Loss. Dans le nord de la France, et donc j'ai deux pédales, et donc même encore un autre bout, un troisième. Donc ce qui m'a permis qu'une fois que j'ai vu qu'il y avait deux points de soudure qu'ils avaient sauté, j'ai pu démonter la pédale et remettre la carbone pour refaire encore une centaine de kilomètres, le temps d'aller voir une entreprise, une grosse entreprise qui répare les chalutiers, les pétroliers, tout ça. Et ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, on va vous réparer ça. Et en moins d'une heure, j'étais reparti. Et puis, ils me disent, si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas à dire, venir un petit coup.
Une bienveillance. C'est super sympa. Exceptionnelle. Ah oui, une bienveillance exceptionnelle.
Exactement.
Ils ne t'ont pas fait payer. C'est
non,
ce que tu disais.
Non. Exactement.
C'est vraiment formidable. Alors, Jean-Michel a une question. À te poser.
Tu fais combien de kilomètres par jour, Charles ?
Bah, ça dépend. Là, depuis le début du road trip, moi, je me suis dit minimum 50 par jour. Même sous la pluie, des fois au tout début, j'avais de la pluie, du vent, je faisais quand même 50. Et mon maximum, c'était 85, ouais, parce que bon, les grimpettes, ça prend une autre dimension en Norvège. Hein, c'est des kilomètres de grimpettes.
Donc, oui, parce ouais, que ton vélo chargé prêt au départ avec les sacoches, on est à plus de 50 kilos là.
Ouais, je l'estime entre 50 et 55 kilos.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc sans assistance électrique, hein, je le rappelle.
Non, bien sûr, voilà. Bien sûr, à propulsion humaine, comme j'aime bien l'appeler.
Ok. Bon, bah écoute, Charles, je suis vraiment heureux d'abord de t'avoir eu, de t'avoir fait partager notre émission, et puis c'est surtout de montrer la résilience qui a dans vos têtes, hein, puisque c'est pareil pour Lisa, à malgré le handicap, montrer que on peut dépasser les limites et pas se réduire à l'incapacité donnée par le handicap que vous portez. Alors, on te souhaite vraiment de poursuivre.
Moi, j'aimerais bien pouvoir. Moi, j'ai ouvert mon association et je voudrais pouvoir essayer de faire changer à mon niveau un peu ce que les gens pensent de l'handicap, en fait. Effectivement, il y a deux possibilités. Quand on a un grave accident comme ça, soit on baisse les bras, ce qui n'est pas du tout mon cas, et moi je transforme cet handicap en force. Et donc ça a aussi une valeur d'aller vers le Cap Nord, parce que le Cap Nord, c'est le point le plus au nord de l'Europe, et c'est aller vers le haut tout le temps, se surpasser, et j'aimerais bien pouvoir essayer de faire changer ce regard, voilà. Quand on veut, on peut, faut de la détermination, et moi c'est ce qui me motive.
Jean-Michel, encore une question.
Charles, tu sais que maintenant, enfin, moi quand je suis allé, c'était pas comme ça. Maintenant, pour aller sur ce point le plus haut de l'Europe, là, il va falloir que tu passes par un tunnel. Hein, et je crois que c'est payant.
Ouais, après, ça c'est.
Alors je sais pas si toi en vélo tu vas payer, mais.
Bah, je sais que tu as dû prendre le bus déjà. Ouais. Là, il y a pas longtemps.
J'ai dû prendre le bus, ouais, en dernier. Ouais, c'est ça.
Voilà. Alors si on veut.
Il y a un bus qui descend à 250 mètres de profondeur pour passer en dessous en dessous de l'eau et remonter. Quoi.
Oui. Voilà. Donc si on veut suivre ton itinéraire, ton parcours, vas-y, je te laisse donner les références.
Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Polar Step, mais je pense que je pourrais tout vous envoyer et puis vous aurez les liens directement, pas besoin de les préciser. Sinon, le nom de l'asso, c'est www.associationstepbystep.com. Voilà. Là, c'est le site de l'association. Tout en bas, vous retrouverez tous les éléments pour me suivre. Voilà.
Très bien. Merci Charles. Bon voyage.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci, bon courage.
Allez.
Au revoir.
Super.
Salut. From you, don't wanna read about it. I got a lot of lonely, ain't gonna move.
Bon, Christophe, c'est dans le sommaire du Motomag de juin. C'est le Touristrophy italien, pardon.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait eu un Touristrophy italien qui a duré de 1921 à 1939.
Ah ouais, c'est un peu vieux. Hein. C'est de la génération de nos grands-parents, hein, effectivement. Alors, tout à l'heure, je me suis trompé. Hein. Le Touristrophy de l'île de Man, ce n'est pas le 107e, c'est le 106e.
106e.
Qui se déroulera incessamment sous peu. Et donc, effectivement, autour du lac de Côme, y a l'usine Moto Guzzi, déjà, hein, à Mandello. Et de l'autre côté du lac, vous avez donc ce circuit, le circuit d'Ellario, qui a été construit donc dans les collines autour du lac, qui a la propriété donc d'offrir un virage tous les 121 mètres. Donc vous voyez, ça tourne effectivement.
On n'a pas le temps d'ouvrir.
Et finalement, c'était le Touristrophy de l'île de Man. Il existait déjà depuis 1907. Et donc les Italiens se sont dit, les fédérations, les clubs locaux, si on ne crée pas notre Touristrophy, la mode des Alpes, et donc sur les contreforts des Alpes, au nord de Milan, s'est construit un circuit de 40 km, donc vraiment en surplomb du lac de Côme. Alors je ne sais pas si dans vos pérégrinations dans le sud, Yanis, t'es passé par là.
Et je t'assure que ce n'est pas des collines, hein, c'est des vraies montagnes. Hein.
Oui.
On est vraiment dans les Alpes déjà.
Alors effectivement, je parle des collines parce que c'est le terme qui est utilisé pour l'île de Man.
On
est vraiment
sur l'altitude, sur Motomag, on est à 707 mètres. 755 mètres aussi, donc ça veut dire qu'on est quand même en dénivelé.
Tout à fait. Alors sur ce circuit, donc je disais une quarantaine de kilomètres, il fait précisément 36,5 kilomètres, hein, contre 60 pour le Touristrophy, 300 virages, 50 épingles, enfin il y a de quoi faire. Mais c'était une autre époque, en 1921. Donc effectivement, des motos de l'époque, 350, et puis on est monté en cylindrée, 500, 750, 1000, avec des temps qui font rêver. Donc c'est là où on voit effectivement l'évolution du matériel. Alors des marques, alors c'est amusant parce que Bianchi, aujourd'hui, c'est une marque connue de vélo, mais à l'époque, il construisait des motos Gilera, Douglas, Sunbeam, Ariel, Sarolea, une marque belge, avec des vitesses moyennes de l'ordre de 50 km/h à l'époque, hein, dans les années 20. Et puis, on monte en cylindrée, on monte en puissance, Matchless, Harley et Indian, qui assomment, si on veut, l'épreuve avec leur 1000, et donc une course très populaire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'avec le temps et l'évolution du matériel, le circuit est devenu inadapté, dangereux. Ce n'était pas toujours des routes asphaltées, il y avait des routes pavées, il y avait des chemins.
C'est surtout l'évolution des motos qui allait de plus en plus vite.
Voilà. Et donc, l'épreuve a été suspendue quelques années dans les années 30 et elle a trouvé son terme en 1939.
Oui, en 1939, il faut dire, c'était un peu la situation internationale n'était pas bien claire.
Tout à fait. Hein, c'est pas tellement évoqué dans l'article, mais...
On commençait à avoir des petits soucis. Enfin, on allait avoir des petits soucis. Maintenant, on le sait, on connaît le passé.
Oui, oui. Puis en Italie, c'était aussi chaud.
C'était chaud aussi, oui.
Au niveau politique. Voilà. Bon, on ne reviendra pas sur l'histoire. D'ailleurs, on ne serait pas très bon sur le sujet. On préfère parler de moto ici. Donc, voilà. Alors, on vous parle d'ancêtres, donc de pilotes, dont les noms, je vous passe. Alors, c'est tous des noms en « i ». Hein, on voit qu'on est dans le sud et qu'on a affaire donc à des locaux, des performances et surtout l'usine Moto Guzzi qui aligne donc des motos. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Moto Guzzi est juste en face du circuit. De l'autre côté du lac.
De l'autre côté du lac aussi. Voilà. Attention, ça passe pas à Mandello. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Mais il y avait un bateau qui amenait les motos et les pilotes en traversant le lac. Ouais. Et donc, c'est un local d'ailleurs qui est devenu ensuite ingénieur chez Moto Guzzi, qui a contribué à l'essor de la marque sur les motos engagées sur ce type d'épreuve. Donc, c'est quand même assez significatif. Je parlais de l'évolution des motos. Je vous ai dit, les premières motos, elles tournaient à moins de 50 km/h. Mais les dernières, les Harley avec leur V-twin, on était à 120 km/h en pointe et des moyennes beaucoup plus importantes parce qu'on tournait à 86 km/h. Donc quasiment, on avait doublé la vitesse. Quand je dis 120, c'était les premières motos. Les Harley, elles pointaient à 220.
Ah oui.
Pas sur ce circuit-là, mais avec la puissance.
Alors, après, si on fait un parallèle avec le Tourist Trophy sur l'île de Man, la vitesse de moyenne est 200 quelque chose, hein, 20, 30. Hein.
Ouais,
donc, on peut se dire que si ce circuit aurait pu perdurer,
alors,
cette course,
le circuit,
cet événement.
Le circuit n'a pas perduré. Par contre, les itinéraires du circuit sont utilisés aujourd'hui par les cyclistes. Donc vous avez le Tour de Lombardie et vous avez le Giro Tour d'Italie qui sont effectivement... Vous allez me dire, je parle tout le temps de vélo. Hein.
Oui.
Il nous faut suer.
On marque, c'est du deux roues. Hein.
Voilà. Non, mais c'est un clin d'œil. C'est juste pour dire que si vous passez par là, allez faire un tour. À la lecture de l'article, vous aurez envie certainement de prendre... Puis le lac de Côme.
C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique. Ah, bah ça,
c'est extraordinaire.
Je connais pas.
C'est extraordinaire.
Mais
extraordinaire.
Tous ceux qui sont allés le disent.
Ah, c'est une région fantastique.
Donc,
les paysages sont extraordinaires. On est au pied des Alpes et puis il y a une architecture classique, 19e, début 20e. Voilà, la belle époque. Il y a des palais, de véritables palais. Non, c'est vraiment une très, très, très belle région.
C'est un spécialiste du tourisme.
Oui,
qui vous
bien
parle.
Sûr.
Ah, je suis géographe.
Mais on sait que tu es géographe. Et non, mais allez-y en septembre, parce qu'on peut, généralement, il y a les rendez-vous. Guzzi, donc à l'usine, vous pouvez visiter l'usine et profiter pour visiter cette très superbe région.
Et n'y allez pas au mois d'août pour visiter l'usine, elle est fermée.
Elle est fermée, oui.
Il y a plus de monde aussi. Hein, donc là, si vous voulez goûter aux 300 virages de ce circuit, eh ben,
il y a quoi faire.
Allez-y hors saison. Allez, roule.
Bon, Christophe, tu vas nous parler, et c'est dans le Mail, hein, dans le sommaire du Mail, oui. D'une marque de moto qui construit entre 15 000 et 18 000 motos par an.
Et une marque française.
Et c'est une marque française.
Française.
On est vachement étonné quand même.
Effectivement, autour de la table, on n'est pas client. Clairement, c'est des machines qui ne sont pas dans nos centres d'intérêt. Mais il faut quand même reconnaître que je pense que c'est l'une des seules marques aujourd'hui françaises. Alors, on pourrait s'y méprendre parce qu'avec le jaune et le bleu comme couleur emblématique, là, on fait une référence à la Suède, à IKEA. Ça pourrait être l'Ukraine. Mais non, elle est bien française et cette marque, c'est Sherco. Alors, Sherco fait dans sa gamme du 50 de temps jusqu'au 504 temps super motard en passant par des 250 et des 350 de temps. La particularité, c'est qu'ils fabriquent tout sur place. Hein, donc, ils sont installés à Nîmes. Ils ont même, jeu de mots, une fabrication de pignons sur rue, puisque juste à côté de leur siège, ils ont une usine de pignons, de boîtes de vitesse, qui fabriquent pour équiper donc toutes leurs machines. Donc, tu l'as dit, ils produisent entre 15 et 18 000 motos, dont un grand nombre à l'export, je ne sais plus combien ça représente. 86 pays. Dans le monde. 800 revendeurs dans le monde entier, 160 salariés. Bon, donc voilà, une belle success story. On leur souhaite longue vie parce que justement, la personne qui fait visiter, c'est Didier, un ancien de Vauxhall. Bon, malheureusement, on sait comment ça s'est terminé pour eux. On ne leur souhaite pas, évidemment, le même parcours. Ensuite, donc j'étais la séquence que j'avais prévu de vous présenter, Consomotard, et donc je suis parti en fait d'un papier Quartier Libre d'Alexa, journaliste à Motomag, qui déplorait en fait le roulage de nuit avec les risques sur les nationales et les départementales qui ne sont pas éclairées et sur lesquelles vous avez des routiers quelquefois qui s'affranchissent un peu des limitations de vitesse. Et donc, en matière de circulation à moto, bah, on n'est pas tous équipés. Alors, je sais que Philippe, la R1300 RT, elle est super bien dotée. Hein, donc, c'est un peu le nec plus ultra. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc, j'en connais qui mettent des phares additionnels. Je sais pas.
J'ai 5 phares en tout sur ma moto. Voilà.
Donc, ça envoie.
J'ai les phares normales, j'ai les deux longues portées d'origine. Enfin, oui, voilà, oui. Et puis j'en ai rajouté deux autres, donc j'en ai 5. Et là, ça s'envoie du, enfin, ça éclaire là, c'est un boulevard. Le problème. Et ça, c'est, il faut faire attention, oui. C'est que ça peut aussi éblouir le conducteur, oui, d'en face, comme on est très souvent ébloui depuis l'instauration, oui, depuis que maintenant les voitures sont occupées de feux à LED. Oui, moi, je constate ces dernières années que les voitures sont de plus en plus aveuglantes la nuit. On voit que dalle quand on est sur une petite route et qu'on est croisé, oui, par une voiture.
Et alors, il faut dire que tu vieillis aussi.
Et alors, partant de pluie, les problèmes des visières. Des visières et de l'échappée des gouttes d'eau sur les visières.
Non, mais alors,
parce que vous avez une diffraction de la lumière qui est phénoménale.
Mais là, on se fait la malle, c'est ça?
On va en parler.
Ah oui, d'accord. Non, okay.
On parle.
Ah oui, oui, j'ai lu, mais c'est oui,
je
c'est,
suis c'est, le fil. Comment roulez-vous la nuit?
Oui, la nuit. Oui, oui. Non, mais alors le problème, c'est bien sûr. Oui, puis il y a les animaux aussi. Hein. Si vous traversez les forêts,
quand un animal traverse, on voit les yeux qui brillent. Donc,
oui, mais si
pas toujours. Ça dépend. Le sanglier, tu n'as pas le temps de voir les yeux.
Le problème de conduite de nuit.
Le sanglier, le petit cochon, le machin, les cerfs, les machins.
Un des problèmes de conduite de nuit qu'on rencontre aussi, c'est le manque de visibilité des routes.
Oui,
parce qu'en moto, à un moment donné, tu suis une ligne blanche,
le marquage,
ce qui te permet,
oui,
le marquage des routes. Et il y a beaucoup d'endroits où les bords des routes ne sont pas, oui, du tout blancs. Et ça pose des vrais problèmes, surtout en campagne, on le voit bien. Ce n'est pas tant l'éclairage de la moto en tant que telle, qui sont bons aujourd'hui globalement, de manière. Mais c'est vrai que c'est limite...
Et ça, c'est une revendication de la Fédé. Hein, l'opération Nidpool, c'est pour les trous. Et le marquage, c'est aussi important.
Oui, sans tout à fait. Compter qu'on a vu se multiplier ces dernières années des séparateurs de voies pour les cyclistes.
Et qui ne sont pas indiqués.
Et qui ne sont pas forcément indiqués. Et de nuit, on ne les voit pas.
On ne les voit pas.
Ça fait partie.
Il y a un casque d'âne oui, dans ce magazine.
Ça, c'est hyper dangereux aussi, Philippe.
Absolument. Hein, absolument.
Même de jour, d'ailleurs.
Voilà. Bah, d'ailleurs, on en a discuté. On
à Bois d'Arcy.
Récemment, une discussion avec la mairie de Lille, effectivement, pour éviter d'avoir ces petits murets.
Ces petits murets, mais c'est hyper dangereux. Mais si tu
regardes dans Lille.
Si tu le vois pas, ça y est.
En fait, ils sont en béton. Et on ne les voit pas par rapport à... D'abord, on n'aperçoit pas le dénivelé, c'est-à-dire on ne le voit pas. Ouais. Nous, on avait demandé à la MEL, parce qu'ils en font quand même pas mal pour sécuriser les pistes cyclables, au moins les doubler par des bandes blanches, de façon qu'il y ait un repérage par les bandes blanches.
Oui, parce qu'ils sont noyés dans le mobilier urbain.
Il faudrait les peindre complètement en blanc, d'ailleurs. Ouais.
Le problème de les peindre en blanc, c'est qu'ils se mélangeraient avec... Et on a eu un motard qui a eu un accident, tout simplement, parce que, effectivement, ce petit muret était blanc, en prolongement d'une bande blanche d'un passage piéton. Ça s'est mélangé, et il est tombé à basse vitesse. Il a une semaine dans le coma, quand même.
Et Philippe, si on dit ça, c'est monsieur les députés, si vous nous écoutez, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour avoir moins de morts sur les routes de France.
Oui, mais à la place, on nous met un CT.
Et voilà, on nous met un CT, oui. Bon, bref.
Bien, merci. Vous découvrirez donc le mot billet d'humeur que je peux qualifier de Alexa, la nuit, l'angle mort de la vitesse. Et vous voyez, ça fait débat, effectivement. Prudence sur la route. Alors, on est bientôt, on a commencé déjà nos voyages. On se fait la malle. J'ai déjà la réponse.
Ça dépend comment tu te fais la malle et comment tu voyages. Est-ce que tu vas à l'hôtel ou tu vas au camping? C'est pas pareil.
Bon, la biche, à toi.
Moi, je fais beaucoup de camping et effectivement,
les
solutions pour charger la moto, c'est compliqué. Hein, la moindre petite place. Hein. Tu sais que dans les gobelets, si tu prends un mug, tu mets quelque chose dans ton mug. Il y a une place dans ton mug.
Tes sacoches.
Les chaussettes.
Tu mets n'importe où. Mais il faut remplir tout ce qui est vide.
Oui. Voilà. Toi, sur la moto, tu as des containers.
Ah non.
Si.
Ah non, non.
Elle est là devant.
C'est une sacoche tout à fait classique, normal. Hein.
Oui, oui.
Il y a bien plus gros que ça. Hein.
Des sacoches rigides.
Oui, rigides.
Oui, d'accord.
Oui, mais c'est même pas suffisant, tu vois, quand tu fais du camping, parce qu'il te faut tout réchaud.
Alors, moi, j'ai des friteuses, en effet. J'ai 3 friteuses à l'U, parce qu'ici, il m'appelle toujours la moto à friteuse. Donc, j'ai 3 sacoches à l'U, sur lesquelles j'ai acheté des sur-sacoches. Voilà, donc on peut quand même en mettre pas mal. Et puis, comme je campe aussi assez régulièrement, je mets un sac un sac polochon au-dessus du top caisse. Bon, alors là, ça commence à faire un petit peu haut. Voilà. Moi, la dernière fois, le week-end dernier, on est allé au Coupe Moto Légende. J'avais retiré le top caisse pour mettre le sac polochon à la place, raisonnable.
Le problème, c'est que tu charges en hauteur. Après, quand tu dois stopper.
Plus une sacoche de réservoir. C'est important. Et puis des sacoches de crash bar, puisque c'est un trail, ça va très bien avec, pour mettre les combinaisons ou les matos de camping.
Et c'est juste.
Le Nec Plus Ultra, c'est la moto de Philippe. Explique-nous comment tu voyages avec tes sacoches.
Alors, avec les sacoches, oui.
Oui.
En fait,
elles ont une particularité quand même.
Oui, elles ont la particularité de pouvoir s'étendre. Est extensible en fonction de la charge que tu veux mettre. Alors, c'est très pratique, hein, puisque lorsqu'elles sont totalement resserrées, l'intérêt d'ailleurs, c'est quand tu fais de l'interfile, t'as pas. Par contre, tu arrives à plus d'un mètre 0,5, mètre 10 quand tu les écartes. Alors, tu peux mettre des casques dedans. Bon. Voilà, c'est l'intérêt. Alors, c'est bien fait. Il y a même des valises de sacs intérieurs. Ce qui est étonnant, c'est que les sacs intérieurs ne s'adaptent pas totalement. Ça te coûte un peu du cul.
Ils ont pas réussi à faire des sacs télescopiques.
Ils sont télescopiques, mais pas la taille de quand tu vas au bout. Alors, ça te permet de rajouter des petites choses.
Ça me fait plaisir.
C'est étonnant.
Chez BM, il y a quand même des petites imperfections.
Attendez.
Dans les sacoches intérieures.
Sur ma BM de 40 ans, la sacoche de réservoir, elle est extensible. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as une fermeture éclair et donc tu peux la remonter. Ils auraient pu faire des sacoches de même.
Ils font, mais pas la dimension de la valise lorsqu'elle est totalement détendue.
Tu pars en vacances en moto?
Quand on part en vacances, oui, mais nous on part plutôt hôtel.
Mais c'est quoi, c'est hôtel ou camping?
Plutôt hôtel.
T'as de la place, parce qu'il faut pas l'attendre, il faut pas ton réchaud et tes petites gamelles pour faire le café le matin.
Non, mais j'ai quand même quand j'ai donc, un sac de chaud en plus sur
donc
le
Donc la place, on peut dire qu'il t'en reste.
Avec alors on part à deux hein, donc avec ma compagne donc ben elle s'est habituée aussi à vivre un peu plus chichement.
Ah oui. donc ça veut dire qu'il reste pas
entre, deux top cases, les deux sacoches et un sac polochon classique, on tient la route.
Oui. Bon. Alors moi j'ai fait le choix de ne pas prendre de passagers, comme ça je peux mettre un sac pelochon à la place. Hein, donc j'utilise mes deux sacoches rigides et le sac pelochon.
Oui, c'est la photo hein, qui est sur le page 109 pour cette rubrique. Faites-vous la malle, hein, parce que là le pilote il est seul sur la moto et il peut charger derrière.
Absolument. Hein, et quand j'ai vu cette
photo, quand il y a deux, c'est pas évident.
J'ai une pensée émue pour notre regretté Régis. Avec notre voyage en Grèce, parce que j'ai une photo, c'est presque la photo du magazine.
Et en 125.
Et en 125. Et en 125, var à zéro. Respect.
D'autant qu'il n'était pas maigre, notre ami Régis.
Non, en plus.
Mais il y avait autant de bagages que lui-même.
Voilà la miche.
C'est fini,
on est prêt pour les vacances.
Voilà, ça c'est pour le mag, hein, pour le mag de juin. Voilà.
Tout à fait. Et il y a hors série, tourisme.
Oui, hors série.
Avec énormément de propositions de balades dans les Ardennes, en Corse et bien loin, bien plus loin.
Voilà, on passe à un morceau de musique et après on retrouve Philippe Motion pour le compte-rendu des Assises nationales du week-end de Pentecôte. A tout de suite. We'll be right back. Voilà, Philippe, tu vas nous faire un petit compte-rendu des Assises nationales du week-end de la Pentecôte. Bon, je rappelle quand même que tu es le coordinateur de la Fédération française des motards en colère et que tu remplaces notre Jean-Yves.
Eh oui,
Jean-Yves, il est connu, tu sais, Jean-Yves.
Jean-Yves est connu, il se remet.
Alors, on l'aime bien pour ses coups de gueule, tu sais. Mm. Alors, est-ce que tu pourrais l'imiter, peut-être
non, chacun, non. Je crois que je ne peux pas imiter Jean-Yves. Il est inimitable.
Voilà, très bien. Bon, tu vas nous parler des. Donc, ouverture des autres. Alors, tu m'as dit, en abréviation, là, il faut tout nous dire un peu, là. Comment c'est...
Alors, un peu plus d'informations. Effectivement, plus précis. À Ronces-les-Bains, donc en Vendée. Hein, pendant une période très très chaude, hein, puisque on était la période de canicule que l'on a connue, mais de très très belles assises. C'est vrai que sans doute un des plus beaux millésimes depuis un certain temps.
Les assises, ça a réuni qui ?
Les assises réunissent en fait les bénévoles de la FFMC, de la France, de France et de Navarre, c'est-à-dire de toutes les antennes.
Dès qu'on est adhérent, on a le droit de participer.
Alors, bien sûr, on peut y participer en tant qu'adhérent. Après, eh bien, c'est limité au nombre de logements possibles.
Ouais, voilà. De places.
Et puis, bon, c'est aussi plutôt effectivement les membres du conseil d'administration, des antennes locales qui y vont, parce que ça fait partie aussi eh bien, de l'intérêt quand on est bénévole et puis qu'on est un peu militant dans la FFMC, ben, de rencontrer les autres, d'échanger, de s'enrichir, de se former. Voilà, donc c'est plutôt de cette population.
Ça représente combien de personnes ?
On est à peu près, trois par antenne, donc 85 antennes.
C'est beaucoup,
tu
fais
le compte, quoi.
Ouais,
voilà. Ouais. Voilà, donc, et c'est aussi l'occasion pour l'autre pétale de la FFMC, c'est-à-dire les délégués bénévoles de la mutuelle, aussi de.
Sont présents aussi.
D'y participer, oui, puisqu'il y a des ateliers avec la mutuelle. Pour eux aussi, c'est un moment important. Donc, en fait, c'est l'ensemble du mouvement qui se réunit.
Ça dure combien de temps ?
Ça dure 3 jours, c'est-à-dire c'est le week-end de Pentecôte, chaque année. Chaque année, le week-end de Pentecôte, on se réunit.
Et c'est toujours au même endroit ?
Alors, c'est soit au Cap d'Agde, soit à Ronces-les-Bains.
Vous avez choisi des beaux endroits pour vous réunir.
C'est surtout des endroits qui ont les moyens de nous accueillir. On réfléchit, y compris dans le Nord, pour pouvoir un jour accueillir les assises nationales de la FFMC, mais on n'a pas encore trouvé un endroit qui peut recueillir 250 personnes sur un même lieu avec la restauration, l'hébergement et tout.
Oui.
Hein, parce que c'est ça quand même l'intérêt. Parce que c'est les échanges entre les moments officiels et puis les autres moments, au repas, l'apéro, l'après-repas, c'est là où on échange.
Donc l'échange, il se fait comment ? Il y a des décisions qui sont prises ?
Alors les assises, on est une association de loi 1901, donc comme toute association de loi 1901, tu as le réglementaire, hein, c'est-à-dire... L'équitus au bureau, le rapport d'activité, le rapport financier, c'est la partie. Mais c'est surtout des moments, effectivement, d'échange où on prend aussi un certain nombre de décisions votées par les assises qui engagent, effectivement, l'ensemble de la FFMC.
La Fédé, hein, c'est une coordination, donc, mais à Paris, il y a un bureau central.
Nous sommes une fédération d'antennes, dont le siège est à Paris, à Montreuil.
Oui.
Où à Montreuil, tu as les salariés de la FFMC, quatre salariés, et le cinquième qui est à Caen, qui est notre trésorière. Et puis le bureau national avec 9 représentants.
Et donc ces représentants sont élus à quel endroit, à quel moment ?
Ils sont élus au moment des assises. Il faut savoir qu'on renouvelle par tiers tous les ans. Hein, donc tous les ans, 3 sur les 9 se représentent. Cette année, la nouveauté, c'est que depuis maintenant 4-5 ans, en fait, on a enfin un bureau complet à 9. 9 personnes, parce que dernièrement, on n'était qu'à 5. 5, ce qui fait que ça pesait quand même sur l'activité des uns des autres. Et là, maintenant, à 9, ça nous donne aussi un peu plus d'espoir.
Finalement, ça a intéressé un peu plus de personnes ?
L'envie, je crois, de redonner souffle à la FFMC, des gens qui ont envie de s'engager, parce qu'effectivement, en ce moment, on est en réflexion sur notre avenir. Comment la FFMC sera encore présente dans 40 ans ? Quels sont les enjeux aujourd'hui du monde motard ? Autour des mobilités, des transitions énergétiques, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses. Si dans les années 80, notre colère s'est faite tout simplement parce qu'on voulait exister, hein, dans la société, être reconnu dans la société. Aujourd'hui, bon, globalement, on est reconnu, mais par exemple, si on prend sur les mobilités, regardez les images de toutes les collectivités, vous voyez des camions, vous voyez des bus, vous voyez des tracteurs, vous voyez des trucs comme ça, des trottinettes, on parlait de, bah, des fauteuils de personnes handicapées, mais vous voyez, il manque toujours une moto. Sans doute un des grands enjeux aujourd'hui d'une FMC qui est reconnue aujourd'hui et par les motards et par les pouvoirs publics, c'est effectivement se faire reconnaître, nous, la mobilité de roues motorisées dans les mobilités d'aujourd'hui et de demain.
Oui, justement, en réaction à ce que tu viens de dire, moi j'habite dans l'île, hein. Sincèrement, avec les aménagements de voirie là, qui sont faits, la circulation à moto est carrément écartée. Hein. Les profils de voirie sont tels. Bon, c'est déjà très compliqué pour les voitures, mais même les deux roues motorisées n'ont pas leur place. Il y a vraiment un report de la circulation sur la périphérie des villes. Donc on va cantonner les motos. Alors je ne sais pas, au niveau mobilité vélo-taf,
sur l'île, bon, on a une mairie, on a rencontré d'ailleurs... La mairie là-dessus, bon, il y a eu des créations de parkings moto qui sont en nombre, enfin, ils sont sans doute à améliorer, ils sont gratuits quand même. La mairie de Lille veut pas le dire, mais on a l'accès possible quand même sur les trottoirs sans être verbalisé, à condition bien entendu d'être correct dans son positionnement et de leur point de vue, il n'y a aucun problème globalement avec le stationnement moto à Lille. Donc il y a quand même des places de stationnement gratuites. Effectivement, se pose le problème dans Lille, dans Bonne Ville, c'est la place justifiée qu'on veut donner aujourd'hui aux mobilités douces, type le vélo et la déambulation des piétons, mais elle se fait VS les voitures. Et pour sécuriser ces espaces-là, on met des petits murets, on met des choses comme ça, qui en fait nous empêchent de... c'est un risque en fait, c'est plus que nous empêche, parce qu'on peut être effectivement dans les voies de voiture, mais si on fait un évitement, on se prend le muret. C'est pour ça que nous, on a demandé, et puis on essaie de demander de pouvoir par exemple emprunter les couloirs de bus lorsque c'est congestionné, parce que tout simplement, t'es pas entre deux bagnoles, t'as pas la pollution, parce que... Et tu vas devant les voitures. Et on ne gêne pas les vélos, ouais, parce que quand tu remontes une file sur un couloir de bus à 25, tu as la vitesse des vélos électriques.
Alors, réflexion sur son avenir, les jeunes et les femmes aussi.
Oui,
Il n'y a pas les quotas quand on regarde les présents donc, à cette
alors, non, assises. Non, on n'a pas de quotas. Alors, on pourrait dire, oui, les femmes représentent la moitié de l'humanité, mais pas la moitié des motards.
Mais pas aux assises de la Fédé.
Non, pas aux assises de la Fédé. C'est quand même dire que la Fédé est une population plutôt, comment dire...
Mais c'est pas les hommes qui empêchent les femmes
non,
de venir.
Non, mais...
C'est les femmes qui viennent pas.
À la Fédération, les femmes représentent à peu près 9% à peu près de nos adhérents. Mm-hmm. 9,5% sont à plus de 15% dans nos instances, nos conseils d'administration. Donc ça veut dire que les femmes ont leur place. Bon, une place qui devrait être sans doute améliorée, mais 16% des femmes passent le permis de conduire et l'ont. Donc je veux dire, globalement, on va dire qu'il va y avoir 16% de femmes motardes. Hein, donc on n'est pas si mauvais que ça par rapport à ces chiffres-là. Surtout que la montée en charge des femmes motardes date pas des années 60. Hein, c'est plutôt dans les dernières années.
Je vais faire un reportage sur les 30 ans des guidonnettes. Donc oui, effectivement, c'est pas d'aujourd'hui.
Voilà. Donc et puis effectivement les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir de la FFMC.
C'est quoi la moyenne d'âge aux assises, hein?
Je fais partie des plus anciens.
Moi, je me doutais bien que tu n'allais pas répondre.
Oui, mais effectivement, on a une moyenne d'âge. On est plutôt plus près de 60 que près de 30.
Donc, ça, c'est un réel problème.
C'est un problème, oui, c'est un problème, tout simplement parce que il faut. Nous sommes plus sur la fin d'un parcours que sur le début d'un parcours.
Parce que réflexion sur son avenir, s'il n'y a pas de jeunes, ça ne sert à rien mais, de réflexion.
Aujourd'hui, en fait, on a un trou sur les 40-50 ans. C'est cette population-là aujourd'hui qu'on ne retrouve pas dans l'FFMC. Donc ça pose effectivement sans doute un problème de saut générationnel entre ceux qui ont plus de 60 ans aujourd'hui.
Il y a eu un trou, il y a manqué 40... quelque chose là, entre ces gens-là.
Il s'est passé pourquoi effectivement cette population qui représentait il y a plus de 20 ans 70% pratiquement de la population de la FFMC aujourd'hui n'est plus qu'à 30%. Alors que la population qui était à 30% des plus de 60 ans est aujourd'hui à 70%.
Oui, mais c'est parce que...
Et les jeunes sont toujours autour de 10-12%. Voilà. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de rajeunissement, et puis de faire venir une population d'actifs à la FFMC, qui seront les remplaçants naturels plus âgés.
Donc là, alors, vite fait, alors, l'ouverture aux autres à SOS, très vite. Hein.
Ouverture aux autres
Je vois HMS, donc on connaît.
Si on était là, il y en avait 6, il y avait AME, l'association des motards électriques, l'AMA, l'association des motards alternatifs, LGBTQIA+, il y avait aussi Code Vert qui était avec nous ici, il y avait la SMC, notre équivalent suédois. Alors, ça peut faire rêver en Suède parce que un tiers des motards suédois sont adhérents à la SMC.
Cas pour la France.
Mais globalement, ce qui était intéressant, c'est au-delà de nos diversités, de la même passion, de la même envie de vivre la moto, de faire vivre nos libertés et nos différences. Et ensemble, on a travaillé là-dessus, comment on pourrait travailler ensemble.
C'est la devise de la FEDE.
Voilà. On se retrouve à travers d'eux et d'autres. Voilà. Ça nous élargit, ça nous enrichit. Okay. Et on va pouvoir travailler ensemble, y compris localement.
Bon, et puis je suis content, on va passer un morceau de musique, mais après on va parler du contrôle technique.
Et oui.
Ça, encore une fois, ça va être compliqué. Hein? Mais juste après.
Ne
soupire pas comme ça.
Juste
après le morceau de musique. Allez, restez avec nous. À tout de suite.
We'll be right back.
Bon, Philippe, on va parler du contrôle technique.
Oui.
Ce fameux CT, là. Alors, on en est où?
On en est où? Bon,
pour l'instant, c'est devenu obligatoire.
Alors, oui, alors là c'est obligatoire depuis avril 2024.
Mais il y a des choses qui se passent.
Alors oui, bon, on a eu les chiffres, bon, tout le monde les a eu, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis de l'UTAC. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire tout ça pour ça par rapport aux chiffres? Alors, si vous allez sur le site de l'UTAC, en fait, vous allez voir les résultats du CT de RM, un peu sous format communiqué de presse, justifiant de fait le CT. Par exemple, un exemple, l'UTAC annonce que plus de 47%, des CT ont au moins un défaut sur les motos. Ok, ouais, on va dire bah ouais.
Moins de 47%.
Au moins 47 ont au moins un défaut mineur, hein, pas forcément critique. Bon, quand on dit ça, oui, bah, ça veut dire on pourrait justifier, mais quand on regarde ce qui se passe par rapport aux voitures, on regarde les voitures, ils disent il y a 10% de CT vierges pour les voitures. Alors j'ai regardé.
Ça veut dire que 90% ont des problèmes.
Voilà. Ouais. Mais si tu fais ça aux motos, c'est plus de 50% des CT motos qui sont vierges. Comparé aux voitures, c'est quand même pas du tout la même chose de 47. Donc ça veut dire que, eh bien, voilà. Et quand on regarde le taux de contre-visite, les voitures c'est 18,2. Hein. Les motos, alors on dit, quand je dis moto, c'est moto, scooter et sidecar, puisque c'est l'L3, L4, L5 que j'ai pris. En fait, on est à 11,1. Donc encore meilleur. Et lorsqu'on regarde celles qui sont défaillances majeures ou critiques, hein, qui commencent à être dangereuses, effectivement, bon, on est à peine 3% pour les majeures et à 0,05 pour les critiques.
Bon, les critiques, c'est les pneus, hein, c'est ça,
pneus. Oui, bon, voilà, il y a des pneus, ben, des autres. Ouais. Alors, ce qui peut un peu se poser quand même la question pour certains, c'est de certains motards qui ont un peu les cornes au front. Arrivé avec certaines bécanes, ils feraient le tour de leur bécane avant d'aller voir le contrôle technique. Oui, peut-être que les chiffres seront encore meilleurs. Voilà. Donc, mais globalement, ça veut dire que, on l'a dit, hein, les motards entretiennent bien leur moto. Ça se confirme à travers les chiffres de l'UTAC. Et même sur les chiffres de 2024, qui concernaient les plus anciennes motos, les chiffres sont encore meilleurs que ceux de 2025. C'est-à-dire que les motos les plus anciennes, et on voit bien effectivement, il se fait dans n'importe quel rassemblement, tu vois les vieilles bécanes, elles sont nickel. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça montre effectivement que bon, voilà, ça rate sa cible, puisque ça fait que justifier que les motos sont bien entretenues. Par contre, ça peut être juteux comme.
Et comme toujours, on propose aussi un contrôle technique, hein, pour les infrastructures. Structure hein, voilà. Pour les nid-poules, et puis le marquage aussi, on en a parlé dans cette émission. Hein.
Voilà, il y a ça, et si on regarde aussi les chiffres, la grande majorité quand même des contrôles techniques ont été faits, ce sont des contrôles techniques obligatoires liés à la revente.
Hein ? Oui.
Voilà. Donc, c'est ça les chiffres, mais ça semble quand même être, comme je disais, lucratif, puisqu'il y a 600 centres supplémentaires qui ont été créés entre 2024 et 2025. Mais c'est vrai qu'aux tarifs qu'ils prennent.
Alors ça, on a entendu des histoires, hein, alors sur les prix, et puis alors des contrôles techniques qui sont faits un petit petit peu à l'arrache, on va dire.
Voilà, tout à fait.
Hein, voilà.
Alors maintenant, voilà. Donc ça, ce sont les chiffres. Et maintenant, où on en est par rapport à la situation du contrôle technique, hein, puisque c'est tout le monde a entendu parler de ce qui se passe au niveau de l'Europe aujourd'hui, où on revoit la directive pour imposer à tout le monde.
À tous les pays. Même le Portugal, hein, qui ont réussi à ne pas avoir de contrôle technique.
Alors, la décision du Parlement européen n'est pas encore faite, puisque normalement, ça devrait se faire en juin. Mais la commission, effectivement, du Parlement. À 30 voix contre 11, s'est positionné pour, ce qui est quand même très 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 fort. Donc ça veut dire que, bon, voilà. La FIM est montée au créneau. Hein, donc la FIM, après la FFM en France, nous, la FFMC, la FEMA qui est montée. Donc là maintenant, on monte au créneau. On est en train de travailler avec le GAM, la FIM, la FEMA, la FFM. Voir un peu comment on va pouvoir interpeller, non pas là le Parlement, mais les ministres européens, parce que autour du principe que ce contrôle technique, en l'imposant à tous, va au-delà du droit de subsidiarité. C'est-à-dire les pays européens peuvent faire mieux sans forcément par un contrôle technique, et c'est le principe de subsidiarité.
Oui, il y avait le principe.
C'est un peu, par exemple, comme les problèmes sur la santé, les problèmes sur la sécu.
Oui.
Les pays ont le droit de faire autrement, à condition qu'ils atteignent les mêmes objectifs.
Voilà. Et pour c'est la subsidiarité. Et pour la moto, les pays ont le droit de faire autre chose qu'un contrôle technique. Et la France avait déjà,
en 2008,
préparé et fait des choses pour la sécurité des motards.
Tout à fait. Grâce à la FFMC en 2008, la France s'était positionnée contre pour avoir des alternatives. On a fait des choses, autour de, par exemple, de la formation et autres. Et puis, il y a une baisse continue de 32% des accidents de moto depuis 20 ans, alors que le parc augmente, sans qu'il y ait eu de contrôle technique. Et aucune statistique ne montre que les pays qui ont, le contrôle technique, l'accidentologie est plus basse. D'ailleurs, je crois que c'est la Hollande. Dernièrement, j'ai vu un reportage où la Hollande a des très bons chiffres sans contrôle technique. Oui. Meilleur qu'ailleurs.
Très bien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler, mais alors très vite aussi, des zones à faible émission là ?
Oui.
Alors ça a été enterré une fois pour les élections municipales.
En fait,
la décision de ne pas faire ces zones à faible émission là ont été enterrées.
Les zones à faible émission n'ont pas été enterrées.
C'est pas enterré.
Tout simplement, il y a eu effectivement un cavalier dit législatif sur la loi de simplification pour mettre effectivement l'abrogation des ZFE. Sauf que le Conseil constitutionnel, lui, a déclaré que ce cavalier législatif n'avait rien à voir avec la loi. Donc il a tout simplement rejeté ce cavalier, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas prononcé pour ou contre les ZFE. Il a juste rejeté ce cavalier qui ne correspondait pas à la loi. Donc, je veux dire, donc de fait, ça revient à la position initiale. Les ZFE sont toujours en vigueur sur l'ancienne base. Sans doute qu'avec les élections présidentielles de 2027, ça va revenir en débat. Effectivement, parce que beaucoup de groupes et autres, y compris les groupes qui portaient les ZFE, comme les écolos ou autres, sont bien conscients, à un moment donné, de la fracture sociale que ça peut créer et des problématiques. Voilà.
Et on rappelle ce que c'est que les ZFE, c'est mettre... au moins un tiers du parc de véhicules, alors voitures, enfin, motos, tout, avant, alors ça je ne sais plus quelle date, c'est mettre ça à la casse parce qu'on n'aura plus le droit de rentrer dans ces zones, ces fameuses zones ZFE.
Voilà, je rappellerai quand même que dans le Nord et à Lille, la ZFE exclut les motos des restrictions. Toutes les motos, quelles qu'elles soient, peuvent rouler dans les ZFE
de
la Melle. Oui, mais la loi actuelle, c'est ça. La loi actuelle permet... inscrit très clairement dans la loi que ça ne concerne pas les deux roues motorisées. Sauf que certaines collectivités comme Paris, Rouen,
Lyon, Toulouse,
ont été au-delà de la loi. Alors, bizarrement, c'est que ça a été traduit dans le code des collectivités territoriales, et on connaît les collectivités territoriales. Lorsqu'elles écrivent elles-mêmes cette loi-là, elles ne l'appliquent pas elles-mêmes. Ça pose quand même un problème dans les collectivités qui le font, parce que c'est eux-mêmes qui le disent. Mais il y a pas mal d'endroits comme Nice, Montpellier, le Reims, où les ZFE, les motos.
Je reviens là-dessus, parce que dans Motomag, page 14, c'est marqué un feuilleton sans fin.
Ça me rappelle
un célèbre feuilleton qui s'appelait Dallas, c'était sans fin. Chapeau quand même pour tout ce que vous faites, parce que c'est rébarbatif quand même, toutes ces réunions avec les représentants de l'ordre,
ça fait partie de la mission de la FFMC, de son combat.
Notre
liberté de rouler en sécurité,
c'est grâce à vous.
Après, il faut encore être.
On va terminer. Tu nous parles de l'initiative mutuelle du samedi 20 juin.
Le 20 juin, avec la Mutuelle des Motards, la FDM et puis la FFMC, on organise une journée maniabilité trajectoire, donc ouverte à toutes et tous. On va mettre le lien d'inscription très rapidement. On est obligé de limiter le nombre parce que pour la sécurité de ceux qui vont pratiquer. Donc je crois que ça sera une belle journée. Dernier point quand même, je voudrais dire, il fait beau.
Ouais.
Le soleil apparaît de plus en plus. On voit les t-shirts et les shorts sortir. Alors je dirais, si vous voulez rouler en t-shirt,
sortez
en short, prenez votre vélo, pas votre moto.
Oh, mais il a fait chaud, hein, comme la semaine dernière.
Oui,
hein.
Mais
moi, j'avais chaud sous le blouson, hein, je te le dis. Hein.
Mais bon, aujourd'hui, on trouve à moins de 100 euros pratiquement.
Je commençais à ouvrir la fermeture et tout.
Des gants aérés.
Et c'était.
Voilà.
Mais bon.
C'est quand même mieux que d'avoir le look pizza.
J'ai acheté le mien en retour d'Allemagne en 2003.
Ah oui.
Attends, chez Rich. Hein.
D'accord. Ben voilà. Oui, ben on comprend aussi les gens. Hein, quoi. Voilà. Mais effectivement, il faut faire attention à la sécurité parce qu'une gamelle, ça y est, c'est bon. Hein.
Ah ben.
Voilà.
Oui,
on,
oui.
Hein, si on n'a pas de protection, c'est. On, c'est...
Voilà. Ouais. On peut changer son pot, pas sa peau.
Ben ouais, voilà. Très bien. Ah, ça, merci, Philippe. Ben voilà. C'est terminé pour toutes ces infos, là. Donc, là, pour la Fédé.
Oui.
Ah ben, c'était très bien, Philippe. Voilà, ouais. Pour un remplacement comme ça.
Au pied levé.
Voilà. Et ben, moi, je t'annonce que le 27 juin, il y a un super truc qui se passe dans la région ici, dans les Monts de Flandre. Le 27 juin.
Ah bon, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, Luc. Il y a une super journée qui va se passer.
C'est Kikinkou qui organise une journée moto
à
chez Anthony, au Cromwell Bar, à Terre de Game. Alors, l'accueil se fera à partir de 10h du matin. On invite tous les auditeurs à venir avec leur moto. Alors, on aimerait bien, pour exposer leur moto. Alors, on aimerait bien, tu vois, plutôt du genre des anciennes ou des cafés rasseurs, des custom, etc. Tu vois, des trucs un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, si tu veux, pour pouvoir les exposer. Et on proposera également des motos à l'essai. On pourra essayer des motos encadrées, bien sûr,
chinoises.
J'osais pas le dire. José,
non, mais c'est en vogue, hein, maintenant. Attendez, vous êtes.
C'est en vogue, les motos.
Non, et puis elles sont bien finies. C'est pas cher, hein. J'ai un doute sur les autres marques, hein.
Il y aura aussi du Zontes, du CF Moto, etc. Pour justement se faire une opinion concrète de ce que valent les chinoises aujourd'hui.
C'est bien.
Ils sont largement au même niveau que les japonaises d'hier. Voilà, donc c'est le 27 juin, toute la journée, c'est un samedi, ça a commencé à 10h. Bien sûr, donc il y aura un barbecue entre midi et 2. On organise également une balade fléchée à partir de 11h. Et puis, pour finir cette journée moto, il y aura un groupe, Tresse Ombre. Vous aurez compris, ceux qui connaissent, c'est un tribute de ZZ Top qui fait allusion au premier album qui s'appelait Très Sombresse. L'entrée est libre et gratuite, sans réservation, donc vous venez quand vous voulez, comme vous êtes plutôt. Si vous voulez plus d'infos, je vous donne un numéro de téléphone, n'hésitez pas à l'appeler, même la nuit, 06 11 25 02 57. Une dernière info.
Évitez la nuit quand même.
Il y a un répondeur, t'inquiète. À noter quand même, dès le vendredi, donc le 26 juin, il y aura déjà un concert de rock à partir de 20h au Cromwell Bar. Donc, week-end rock et moto, 26 voilà. Et 27 juin à Terre de Game.
Et comme dit Marcel sur Campus, c'est gratuit et non payant. Voilà.
Et c'est pas vous le produit.
Non, et c'est pas là. Voilà. Merci Christophe pour cette dernière émission de cette saison 25-26 Radio Télé, saison radiophonique. Et ben, normalement, on devrait se retrouver le 4. Le 4 octobre.
Oula.
Le 4 octobre, donc ça fait loin. Hein.
Oula.
Mais bon, enfin, voilà. Merci Philippe d'être venu remplacer Jean-Yves.
Oui.
C'était très bien, super, et on a appris plein de choses. Merci Yanis pour tes infos géographiques.
On a toujours besoin d'un géographe.
D'un géographe.
Toujours. Voilà, un motard géographe.
Voilà, un motard géographe. Voilà.
J'écris sur la moto d'ailleurs. Et géographie de la moto.
Et puis Doug, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, hein, le 27, là, le 27 juin.
On va refuser. C'est sûr qu'on va refuser.
À Terre de Game, au Cromwell. Et puis alors, je m'excuse, messieurs, mais un peu de complaisance pour notre ami technicien. On dit au revoir à qui?
Merci Laurent.
Merci Laurent.
Au revoir Laurent.
Merci, Laurent.
Allez, au revoir à tous et à toutes. On se retrouve dimanche prochain à 11h sur Zone de Campus. Salut.